Il est mort Jim, lui par l'auteur, épisode 76, chapitre 12. Ma semaine s'écoulait lentement à l'université. Miss Angela n'était pas allée me chercher à l'aéroport, comme je l'avais involontairement espéré. Elle ne m'avait pas appelé non plus, et je ne l'avais pas fait. Je ne lui en voulais pas, m'inquiétais juste pour elle. Si une issue fatale était intervenue pendant mon absence, je l'aurais su, sans doute par Roberta. Une personne en constant dialogue avec la mort n'avait que faire d'une relation destinée à une dissolution rapide comme la nôtre. Elle l'avait clairement signalé avec son compagnon antérieur. C'était compréhensible. Le mardi matin, je finissais mes cours à 10h30. Je marchais jusqu'à la faculté de théologie. Il avait fallu que je demande quel pavillon c'était exactement au gardien qui se trouvait à la sortie du mien. Je ne m'y étais jamais rendu. Je n'y connaissais personne. J'avais interrogé mes collègues du département des lettres pour savoir à quel collègue je pouvais m'adresser. On me donna le nom de Rafael Eduardo Rubio Carrero. C'était l'un des professeurs ordinaires principaux. Il était donc qualifié et de plus avait la réputation d'un homme affable. Il le portait d'ailleurs sur lui, mais on ne devait pas en attendre moins d'un homme d'église, tranchais-je. Petit, les cheveux blancs, il avait des lunettes démodées qui seyaient à un ecclésiastique. Il n'arborait pas de croix. Peut-être était-elle sous son pull qui dégageait un large col de la chemise, qui était un autre défi à la mode. À l'âge qu'il avait, j'en aurais plutôt fait un professeur émérite, mais il était alerte et arborait un sourire quasi espiègle. Il m'avait donné rendez-vous dans la salle des professeurs. Je m'étonnais qu'elle ressemble à celle de ma faculté. Si je n'y voyais pas d'inconvénient, nous pouvions y rester. Aucun collègue ne nous dérangerait et ils étaient tous en cours. Il avait même un petit café qui devait être chaud, dit-il, en extrayant d'un casier un thermos qui semblait avoir beaucoup servi. Il maintenait la chaleur de l'imbuvable breuvage qui avait une telle quantité de sucre qu'on aurait pu décimer une armée de diabétiques. Le professeur Carrero ne s'étonna pas de mes recherches. Pourquoi pas un travail universitaire qui s'intéresse à l'au-delà, jugea-t-il. L'homme d'église me tutoya d'emblée. L'atmosphère était moins empreinte de solennité qu'au couvent Santo Domingo. La même intelligence amusée brillait dans les yeux de mes deux interlocuteurs. Oui, Raphaël, je t'en prie, Jim, appelle-moi par mon prénom, voulais bien parler de la conception de la mort dans les différentes religions. On se demande d'ailleurs bien pourquoi l'étude des religions n'est pas au programme de l'ensemble des établissements scolaires, laïcs inclus. J'étais bien d'accord. Comment sans cela comprendre l'art et l'histoire des civilisations? Mais toi, Jim, tu veux aller plus loin. Pourtant, en tant que Français, tu dois bien avoir un fond d'athéisme ou au moins d'agnosticisme. Évidemment, il fallait tout d'abord parler du christianisme, la religion des embranchements tentaculaires. C'était une des trois religions révélées avec l'islam et le judaïsme. Le judaïsme ne mentionne pas l'immortalité de l'âme, sauf dans le livre d'Énoch, où il est question d'âmes humaines qui attendent le jugement dernier. La mort y est accueillie par des familles. Le mort y est accueilli par des familiers. Il voit des lumières et a des visions lors de son passage. Le jour de la mort est d'ailleurs préférable à celui de la naissance. On trouve là des notions qui apparaissent à la fois dans le spiritisme et dans les récits d'expériences de mort imminente, remarquai-je. Pour l'islam, l'après vie terrestre est importante. Les musulmans attendent comme les chrétiens et les juifs le jugement dernier, où les corps doivent renaître dans une vie matérialiste. Avec la recrudescence malheureuse des attentats suicides ces dernières années, tout le monde a entendu parler des récompenses qui sont promises à ces, entre guillemets, martyrs. Leur paradis est fait de luxure, avec des femmes au corps avenant, de la boisson et tout le tintouin. Quant aux religions d'Orient, tu m'as dit qu'elles avaient pour toi un intérêt particulier. J'ai eu l'occasion récemment de côtoyer quelques bouddhistes, disons. Et il y a aussi une lecture édifiante, le livre des morts tibétains. Tu veux parler sans doute de l'original. Non, je n'ai pas encore eu le courage de le lire, mais le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoché en est une exégèse. L'original est apparemment issu d'un texte indien du 7e siècle. Son origine n'est pas exactement connue. Je l'ai lu. Tu devrais sans doute le faire. Les bouddhistes, comme les hindouistes, croient au ciel et à l'enfer. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai compris, si je puis me permettre, Raphaël. Disons qu'il y a tout de même dans le bouddhisme une dichotomie entre une vie dans l'au-delà bienheureuse et une autre tourmentée. Chez les bouddhistes, comme chez les hindouistes, il y a une longue suite d'existences terrestres. Le salut consiste à échapper à ce cercle incessant. C'est le nirvana chez les hindouistes. Et l'illumination chez les bouddhistes, complétai-je. Les deux religions croient à la renaissance en êtres vivants, mais aussi en animaux. Toute vie doit donc être protégée, même animale. Tu as entendu parler, naturellement, du troisième œil. Oui, c'est chez les hindouistes un des sept chakras, un des centres énergétiques placés sur le front, qu'on identifie avec une marque faite de santal et même de cendres, et qu'on appelle le tilak.